Bon, bah ça commence, Tom, là, ou
Oui,
qu'est-ce
bah
qui se
deux
passe?
secondes, je répondais à quelque chose.
Non,
Bon,
c'est qui fait faire.
c'est
C'est
bon,
bon.
si j'avais pas écrit mon texte, bah c'est tout, ça sera. Marina, on a perdu Marina.
De trolls, diaboliques, sans aucun respect ni aucune considération.
Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Sarah les Causeurs, votre podcast 100% série. Je suis très content de vous retrouver. Enfin, moi en tout cas, je suis content. Je ne sais pas vous, mais. Très bien, merci de répondre tous.
Très content.
Alors, je suis Tom, votre hôte habituel. Hein. Ne croyez pas ce que dit Adrien, c'est faux.
Alors, sauf quand c'est Adrien qui parle. Et dans ce cas-là, c'est toi qui as faux.
C'est vrai. Avec moi, j'ai Iris de Small Things qui est là.
Tout à fait. Bonjour, Tom.
Bonjour, Iris. J'ai Marina de Malti qui arrive comme ça.
Ouais, bah ouais, pourquoi pas. J'ai vu de la lumière, alors bon, je me suis dit pourquoi pas.
Tu vas m'expliquer comment tu vois une lumière dans un podcast.
Eh ben,
on se calme. J'ai dit quoi ? J'ai dit quoi, Marina ?
Je suis très forte, mais les gens ne le réalisent pas. Ce n'est pas immédiat. Les gens ne le réalisent pas immédiatement.
Alors, sache que moi, j'ai constaté tout de suite que tu étais quelqu'un de très, très balèze.
Ah, voilà. Iris.
Moi aussi, c'est immédiat.
Regarde là, à qui derrière ? Non, c'est faux.
Voilà.
Iris,
bon,
Iris,
s'il vous plaît, on est déjà à 30 oui. minutes de podcast. Là. en parlant de lumière...
Mais ça on n'avait pas fait Marina et moi.
Donc
voilà.
En parlant de lumière, Stéphane des plus mathématiques est là.
Non, t'es trop bien. Merci, bonjour tout le monde. On peut lui couper son micro, Marina, s'il vous plaît.
Et enfin, à qui de l'Internet qui est là ?
Sans gré de la connexion, je suis sur l'Internet.
Oh, à qui de l'Internet est là ? Oui.
C'est dissipé aujourd'hui. On va parler de la presse série. Et des magazines séries. Avec nous, on a une journaliste qui est Marina, donc elle va pouvoir un peu nous parler aussi de son travail, si c'est, on peut appeler ça un travail. On passe tout de suite, donc, on passe tout de suite au sommet. Donc on va parler de la presse, parce qu'il y a Stéphane nous présenter un magazine qui s'appelle Le 1, c'est ça, si je ne me trompe pas, Le 1 qui a sorti un numéro sur les séries télé. Donc on va un peu débriefer ce numéro. Ensuite, on reviendra un peu sur ce qu'étaient les magazines séries à l'époque où on lisait les spoilers sur du papier. Donc on va parler de Génération Série, de Série Mania, d'épisodes, de génériques. Et ensuite, je débrieferai pour vous deux magazines que je viens d'acheter qui parlent de la même chose, les meilleures séries de tous les temps. Il y a un top 100. Bon, j'ai eu une mauvaise surprise, vous allez voir, je vous en parle après. Donc restez...
teaser.
Restez pour la fin.
Il n'y a pas Lost, c'est ça ?
Et tu serais bien surprise de la place de Lost dans ce top 100.
Ah. Bon, alors continuons, parce que je voudrais savoir ce top 100.
Le 1, Stéphane, vas-y, parle-nous un peu de ce magazine. Déjà du concept du magazine et ensuite du contenu, parce qu'il y a quand même des choses un peu intéressantes.
Donc le 1, c'est une grande page qui est pliée en plein de petits morceaux. Et dedans, il y a des choses très, très intéressantes. Je vous lis la tagline. Hein. C'est chaque semaine une question d'actualité, plusieurs regards. C'était le mercredi 6 février. Ils ont sorti un numéro spécial sur les séries avec le titre très accrocheur et aussi qui m'énerve un petit peu. Série, pourquoi elles nous rendent accro. Donc voilà.
C'est, nous, comme sujet,
ça, c'est le mot série qui t'a énervé, c'est ça ?
Voilà, c'est tout à fait ça.
Il n'est pas bien.
Non, mais j'aime pas qu'on me dise que je suis accro à quelque chose, tu vois. Alors bon, déjà, la relation entre nous commence très mal.
Surtout que l'approche est un peu... c'est
méprisante, condescendante.
C'est passé, surtout, c'est passé. C'est pas en 2019 que tu parles des séries comme ça, quoi.
Non. Mais c'est surtout qu'en fait, le titre ne correspond pas forcément beaucoup avec ce qu'il y a dans le contenu du magazine. Mais bon, après, voilà. En fait, il faut être clair, ce magazine-là, il n'est pas pour les sériephiles, clairement. Parce que tout ce que ça raconte, tout ce que ça met en avant avec des interviews de producteurs, de scénaristes, de réalisateurs, de personnes qui participent à la conception d'une série de partout, de l'écriture jusqu'à la réalisation, tout ça, on le sait. Voilà, donc ça parle d'un petit peu d'économie, ça peut être intéressant parce qu'on n'est pas forcément au fait de tout, vraiment tout comme il faut, mais ça s'intéresse, enfin c'est surtout pour un public qui n'y connaît pas grand-chose, quoi. Donc voilà.
Ah, plus pour des néophytes, d'accord.
Voilà, qui voit les séries, qui entend parler de séries, mais qui ne savent pas vraiment ce que ça représente vraiment en France et comment ça se fait, quoi.
Il y a encore au niveau de du processus de création, la grande page avec toutes les phases. Ça, ce qui est bien, c'est qu'il y a des intervenants, donc qui sont vraiment dans le processus, donc ils apportent vraiment un regard plutôt bien. C'est pas juste du travail de. Enfin, il y a du contenu, quoi, au niveau de.
Ils sont allés chercher des gens très intéressants et qui disent des choses très intéressantes aussi.
Voilà, oui. Parce que surtout que maintenant, on a des gens en France qui font des séries, qui se rapprochent un peu de l'industrie.
À l'américaine.
À l'américaine, donc voilà, on a un vrai regard français. Après, tout le reste des pages, on va y venir, mais c'est pas. Enfin, voilà, on brasse de l'air un petit peu.
Il y a des choses qui vont hérisser le poil de tous les sériephiles sur cette planète. Hein, donc, voilà. Mais non, après, ils sont allés quand même chercher Fanny Herrero, donc la créatrice de 10%. Il y a Thomas Lilti qui a fait Hippocrate. Il y a donc Harold Valentin, il y a une grande interview d'Harold Valentin faite par Fotorino. Donc, voilà, c'est un producteur qui est aussi été au pôle fiction de France Télévisions. Il y a des choses intéressantes. Bon, après, par contre, tu vois, ils sont allés chercher un écrivain, Aurélien Bélanger, qui est certes peut-être très bien.
C'était pas très utile.
Non, mais surtout pour nous dire qu'il a arrêté de regarder des séries à la saison 2 de Breaking Bad. Donc,
c'est ça, voilà.
Donc, merci, c'était pas forcément très intéressant et ça n'apporte pas grand-chose, quoi. Voilà.
Je suis d'accord.
Bah, en fait, c'est vrai qu'il le présente écrivain, auteur de romans, qui n'ont rien à voir avec des séries, qui fait un bouquin sur l'Eurodance, donc qui n'a rien à voir.
L'Eurodance ?
Oui, sur l'Eurodance. Et après, quand tu vois le résumé de son livre, le résumé de son livre, c'est de l'intellectualisation de l'Eurodance. Alors, c'est un truc totalement. C'est en préambule d'un spectacle qui va s'appeler 1993. Alors, j'ai rien compris du tout. Ouais, c'est un truc. Voilà, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Dans le name dropping, il y a toujours les mêmes, quoi. Six Feet Under, Les Sopranos.
S'il y a bien une chose qu'on peut reprocher à ce magazine-là, c'est de s'être contenté de séries élitistes qui reviennent tout le temps dans les conversations de dîner en ville, hein, comme ils aiment bien mentionner dans le papier à un moment donné.
Je sais pas, mais.
Quand
on parle de cinéma, on parle pas toujours des mêmes non plus, tu vois. On va pas en sortir 5.
Sauf que là, ils te disent que celle-là, c'est la crème de la crème.
Alors mais surtout qu'avec le temps qui passe, je veux dire, je veux bien croire que The Wire ou Les Sopranos, c'est la crème de la crème, mais c'était il y a 20 ans, quoi. Enfin, bref.
Oui, mais ça reste quand même la crème de la crème.
Bah, il y a une bonne approche. À un moment, justement, ils parlent de ce papier-là, ils disent de l'âge d'or à l'académisme. C'est-à-dire que maintenant, c'est.
Oui, c'était intéressant comme ça.
C'est une sorte d'habitude de création, c'est-à-dire que tout se ressemble.
Ouais. Je vais te donner la citation que j'ai qui m'a fait plus sourire dans le papier d'Aurélien Bélanger, donc de l'âge d'or à l'académisme. Hein. La chose s'est encore accélérée. On en est à 20 ans plus tard, à presque une série géniale par semaine. C'est évidemment trop. Nous sommes bien d'accord, en effet, toutes les semaines, parce que Netflix sort une série géniale, il y a forcément une série géniale toutes les semaines. Et ce n'est pas vrai. Mais bon, après, là-dessus, je le rejoins.
Un peu presque, enfin bref.
Bah, j'ai l'impression que c'est. Oui, les séries sont bien faites, mais est-ce qu'en termes de séries, de vraies séries, en fait, est-ce que ce sont des bonnes séries ? C'est peut-être des belles œuvres, mais ce n'est pas des bonnes séries, tu vois. C'est peut-être des bonnes histoires, mais ce n'est pas des bonnes séries. Moi, je me souviens, quand j'avais critiqué The End of the Fucking World, j'avais trouvé que l'histoire était intéressante, mais que ce n'était pas une bonne série. Pour moi, c'était un bon film, mais ce n'était pas une bonne série. Et je trouve que là, on est un peu dans ce sens-là où l'académisme, maintenant, c'est de faire les choses un peu de façon automatique, où tu auras un grand nom du cinéma, donc ça va attirer du monde. Ça va être très bien fait, ça va être trop parfait. Et trop parfait, moi, ça ne m'intéresse plus, quoi.
Trop parfait, et puis surtout sur le même schéma des séries qui... On parlait des séries françaises qui arrivaient à peu près au niveau des séries américaines, en tout cas pour certaines, et on en revient au débat qu'on avait déjà eu dans un précédent podcast, c'est-à-dire le format scénaristique des séries qui change à cause du type de visionnage aussi des séries. Donc on est dans un académisme alors qu'on devrait être dans une transition. Et on ne l'est pas encore, parce que la plupart des séries, là aussi, c'est ce que je disais et je maintiens, c'est que la plupart des séries actuelles, à part quelques rares exceptions, il y a une saison qui est top, et après, ça coule.
Qu'est-ce qu'on entend par académisme ? Enfin, ça, je ne comprends pas trop, je vous avoue.
Moi, ce que j'ai compris, quand on parle quand il parle d'académisme, c'est Aurélien Bélanger qui écrit sur l'Eurodance. c'est... Je trouvais important de le ressouligner. C'est qu'il parle d'une espèce de formalisme. En fait, ça devient un peu toujours le même schéma, le même type de...
D'accord.
Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Oui, peut-être que je me trompe.
L'âge d'or, c'était beaucoup de séries différentes, alors que maintenant, il a l'impression que tout se ressemble parce que
parce qu'il faut attention à l'image, il faut attention au personnage, voilà. Il faut attention à l'histoire qui soit voilà. Un peu disruptive. Alors tout le monde fait disruptif, donc tout le monde fait de la même chose.
D'accord, ça.
Voilà, c'est un truc qui se formalise au fur et à mesure du temps, quoi.
Non, mais c'est comparer des trucs qui sont incomparables. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, les séries n'étaient pas du tout les mêmes parce que l'offre n'était pas du tout la même. Maintenant, comme vous disiez, Netflix, tous les vendredis pratiquement, il y a une série qui sort. Effectivement, comme c'est estampillé Netflix, généralement, il n'y a pas beaucoup de séries qui sont éreintées parce que c'est estampillé Netflix et tout ce que sort Netflix, c'est super bien. Moi, la première, là, j'ai regardé The Umbrella Academy, j'aime beaucoup. J'ai fait avec les défauts et tout. Il y a des défauts, mais j'ai fait une critique globalement positive. Maintenant, est-ce que dans 3, 4 ou 5 ans, je vais me rappeler de cette série ? Je suis pas bien sûr, parce que fait qu'ils sortent, que toutes les semaines sortent une nouvelle série, ben, pour moi, t'as aucune série qui sera pérenne, parce que t'as trop d'offres et il y a pas comme The Wire ou quoi. Dans 20 ans, je suis pas sûre que Stranger Things ou j'en sais rien, ou Orange is the New Black, on en parlera.
Parce que c'est générationnel, je suis d'accord avec toi.
Non, mais c'est l'épreuve du temps. Et ça, pour le coup, le papier du 1 n'en parle pas, quoi. De toutes ces séries-là, donc, ils te font 12 séries marquantes. Donc, t'as Twin Peaks, X-Files, Friends, Urgence, Sopranos, The West Wing, Six Feet Under, The Wire, Battlestar Galactica, Game of Thrones, The Handmaid's Tale et Mad Men. Toutes ces séries-là, elles vont marquer la culture populaire et dans 20 ans, on s'en souviendra toujours. Mais les autres, c'est l'épreuve du temps qui fera le tri, quoi. Ouais, c'est juste
toujours,
ça.
T'as toujours le duo West Wing The Wire que personne n'a vu, faut avouer.
Ben, en France, c'est vrai parce que c'était très mal diffusé aussi. Parce que David Simon, il n'a pas fait des films qui ont cartonné à l'international. Donc, ça n'aide pas beaucoup aussi. Quoi.
Ouais, voilà. Même si c'était pas sur le moment qu'ils n'ont pas regardé The West Wing sur le moment, au moins avec Aaron Sorkin ou quoi, ça leur dit quelque chose. The Wire, voilà, je pense que c'est quand même un poil plus, comme disait Iris, un poil plus wacky, un poil plus pointu quand même.
Après, au niveau, pour revenir un peu sur le magazine, il y a l'édito qui dit dans les premières lignes un truc intéressant, c'est que il dit le cas était, il vient à rappeler à quel point les séries auxquelles on n'accolera plus nécessairement l'adjectif télévisé. Ce qui est vrai, parce que maintenant, les séries télévisées, si on parle d'une série Netflix, il y en a beaucoup qui vont la regarder sur leur tablette ou leur ordinateur. Donc, en fait, une série télé, en tant que telle, c'est un terme qui était...
C'est galvaudé maintenant.
Bah, c'est ça.
Mais qui n'a plus vraiment de sens, surtout.
C'est marrant.
Est-ce que c'est une web série ? Enfin, tu vois.
Ouais. Ce dont tu mentionnais avec Wayne, notamment.
Oui, sur YouTube. Non, mais en fait, il est vrai, parce que j'ai vu une critique, mais c'était celle des Inrock par Olivier Joyard, qui disait que la série Wayne était une web série parce qu'elle était sur la plateforme YouTube Premium. Et pour le coup, ça m'a un peu chagriné de voir, de la voir qualifiée ainsi, alors qu'elle mériterait, comme la plupart d'ailleurs, même la plupart des web-séries sur YouTube, mériterait juste le qualificatif série.
Mais surtout, le principe de YouTube Premium est une plateforme de streaming à la Netflix, et on ne peut jamais dire qu'une série Netflix est une web-série, en fait.
Mais c'est exactement ce que je voulais dire, mais bon, je ne voulais pas m'engager dans un débat où c'est que les gens allaient me taper dessus, parce que je me suis fait taper dessus par des personnes alors que je n'avais rien demandé, mais...
Dire que Roma, qui est sur Netflix, n'est pas un film.
Non,
parce que
c'est un téléfilm.
Bah oui, ça serait, pour moi, c'est un téléfilm. C'est diffusé, enfin, même pas, c'est même pas un téléfilm. C'est même pas
c'est un webfilm.
C'est du e-cinéma. Enfin,
ça a du sens aussi de finir par donner un terme par catégorie, puisque il y en a, ce que tu disais, Stéphane, c'est que les web-séries ne méritent pas le terme.
Non,
tout simplement
j'ai pas dit ça,
parce que tu... Mais... Non, mais... tu dis ça, ça me fait tiquer parce qu'il appelle ça une web série uniquement parce que c'est diffusé sur la plateforme. Parce ouais. que il y a une espèce de hiérarchie que tu as fait, c'est-à-dire que tu considérerais ou les gens considéreraient que la web série est de moins bonne qualité que la série Netflix ou que la série diffusée chez HBO. J'en sais rien.
C'est n'importe quoi. C'est le cas. Non, mais dans l'esprit des gens, web série, ça fait, c'est cheap. Mais il y a des séries qui sont des web séries entre guillemets qui sont autrement meilleures que...
Déjà, on peut citer les productions de French Nerd, Le Visiteur du Futur et tout ce tous les trucs qui ont été dans la même veine. Pour moi, au bout d'un moment, c'était plus. Alors, ça commençait comme une web série avec un épisode d'une minute, et puis ça finit avec des épisodes à la télévision diffusés et avec c'était plus de la web série. Sauf que ça aura toujours le qualificatif web série.
Web série, mais je te dis, ça changera parce que les habitudes aussi avec justement Netflix, cette habitude de regarder les séries sur son téléphone, sur sa tablette.
Mais c'est pour ça que ça m'a fait tiquer que Olivier Joyard, qui comme le disait Aki, YouTube Premium, c'est censé être une sorte de autre Netflix, tu vois, ou de Hulu ou de
d'Amazon
Prime, quoi.
Oui, oui.
Donc c'est pour ça que l'utilisation du terme web série, alors que c'est censé être pas sur YouTube lui-même, mais sur YouTube Premium, c'est un truc payant, ou c'est que qui disent web série alors que ça va être d'une autre plateforme, tu vois, ça m'a fait tiquer et je me suis dit que c'est bizarre. Si j'étais complotiste, je dirais qu'il a été payé par Netflix, mais bon, après, voilà.
De toute façon, c'est vrai que là où on diffuse l'œuvre devrait prendre possession du terme, enfin, devrait inventer un terme. Parce que par exemple, Un gars, une fille, Caméra Café, si on les mettait sur le web, ça a d'une web série, tu vois. Le format est court, ça n'a pas non plus un gros budget, c'est diffusé à la série, on appelle ça une shortcom, tu vois, alors que c'est ça à peu près la même dimension qu'une web série.
Ouais, ouais.
Tu vois, Scam, c'est diffusé sur le web d'abord, sur la plateforme
et à la télé aussi
quand même.
Non, donc tu disais, les séries auxquelles on n'accolera plus nécessairement l'adjectif télévisé ont envahi notre quotidien des transports au petit matin jusqu'à la chambre à coucher le soir. Et c'est vrai. Non, c'est ça qui est dingue, c'est qu'on consomme de la série comme on consomme de l'eau, quoi. Enfin, tout le temps, quoi.
Oh là là, c'est horrible, hein.
Chez vous, peut-être, pas chez moi. Moi, c'est religieux, c'est à la télé.
Voilà, moi aussi.
Vous castez, par exemple, ou vous ne regardez que ce qui est disponible sur des plateformes?
Ah non, mais je diffuse sur ma télé.
D'accord. Ouais,
je caste Netflix télé et casté aussi, pareil. Ou devant l'ordi quand j'ai la flemme de caster.
Moi, je vais pas regarder devant l'ordi parce que voilà, j'ai pas d'ordi portable. Deux, mon ordi de bureau, je préfère être sur un canapé que sur une chaise de bureau.
Oui.
Enfin voilà, enfin pour moi une série c'est dans une télé, quoi, voilà.
Mais bon. Tout à fait.
Rapidement sur l'entretien qui est donc avec le producteur de 10%.
Harold Valentin.
Pour moi, ouais. C'est n'importe quoi. C'est le mec qui passe du coq à l'âne. Déjà la question c'est une ligne.
Oui, c'est ça.
Première question, d'où vient l'engouement pour les séries?
C'est pas vrai.
Non.
Je vous rappelle que c'est un dossier qui a été fait pour des néophytes. C'est pas pour nous. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur des questions qui ont été posées.
D'où vient l'engouement pour les séries? Non, mais pourquoi il y a des méchants dans le monde? Pourquoi il n'y a pas la paix dans le monde?
C'est un peu ridicule parce que là, le postulat de départ, c'est pas que les séries n'existent pas dans le monde. Enfin, je veux dire, même Plus belle la vie, on va dire, ça existe, quoi. Donc, il y a un engouement.
T'en parles d'ailleurs.
Mais surtout, c'est une question qui n'a pas du tout de contexte daté, rien du tout. Et donc, la réponse du producteur, c'est bon, on peut remonter à la fin des années 60. Avec Les Rois Maudits ou Yannick Aimé. Donc, le truc, voilà, c'est évidemment, il y avait des séries depuis
le début de la télé, quasiment. Hein.
L'engouement, oui, c'est pas l'engouement a toujours été là, mais c'est plutôt la façon dont on parle
de l'engouement.
Mais là, surtout, après, il parle du modèle dominant et il parle de la nouvelle vague, il parle de Jean-Luc Godard, il parle de la Grande Vadrouille, des Ch'tis, et d'un coup,
il dit, si on prend
le succès de la Grande Vadrouille et celui des Ch'tis, on se dit qu'il y a eu un problème narratif entre les deux. Et après, il dit, mais cette dimension perdue du récit est revenue en France avec Twin Peaks ou New York Police Blues.
Oui.
Enfin, le truc qui n'a rien à voir, quoi.
Non, mais il souligne quand même qu'entre les années 60, où c'est qu'il y avait énormément de séries à la télé, donc il y a des gens qui peuvent te citer encore Belphégor ou Les Rois Maudits ou L'autre là, avec Thierry Lafronde et tout ça, machin. Entre cette période-là qui a été assez quand même productive et les années 90, voire 2000 en France, il s'est Il y a eu un gros vide, quoi. Et pour lui, il justifie ça avec le cinéma qui a piqué tous les talents et qui sont partis au cinéma parce que la télévision, en fait, c'était juste nul, quoi. Puis voilà, quoi. Mais disons qu'il faut... Et je trouve que pour le coup, l'entretien avec Harold Valentin, là, il faut un petit peu interpréter ce qu'il essaye de dire entre les lignes, parce que sinon, si tu prends ça au premier degré, tu te dis, ah ouais, quand même, en effet, on est un peu débile en France, quoi.
Non, mais Stéphane, toi, tu sais faire, tu sais interpréter, parce que voilà, t'as une formation journalistique et tout, mais est-ce que les gens ont cette capacité à interpréter ou ils prennent au premier degré? Je crois qu'ils prennent au premier degré aussi, tu vois, parce que si tu dois interpréter
C'est bien ça qui me dérange dans ce numéro, quoi. En fait, au final, ça reste en surface, quoi.
Tu connais le contexte aussi sériel, on va dire.
Ben voilà, c'est ça. Donc, ça reste en surface pour des néophytes. Donc, au final, c'est un peu compliqué de ça. Et en fait, il faudrait que je le fasse lire, tu vois, des gens autour de moi pour savoir à peu près ce qu'ils en retiennent.
Bon, par contre, après, il fait une analyse en citant Balzac et Zola. Enfin, c'est...
Oui, mais, ça, mais si, c'est parce que c'était le roman feuilleton et c'est ce qui se rapproche de la série avant, quoi. Donc, c'est pour ça.
Alors, surtout, il répond à la question « c'était moins bien ?» Genre, les séries françaises, est-ce que c'était moins bien ? Et là, il te parle donc de Balzac, tout ça. Et après, ses réponses sont quand même bien développées, mais après, c'est... On ne sait pas trop s'il répond à la question, en fait.
Ça nous est déjà arrivé de transformer entre guillemets un tout petit peu la question, parce que à la base tu l'as posé, ton l'interviewé est peut-être tombé à côté et t'as dû un peu transformer la question pour coller à la réponse. Hein, oui. C'est déjà arrivé aussi à un moment donné. Donc il faut voir aussi. Enfin, je critique pas le travail du journaliste, hein, mais à un moment donné, faut peut-être se poser la question aussi en ces termes, quoi.
Il y a la fameuse question « En quoi les séries se distinguent-elles du cinéma ?»
Donc là, après, ça m'a fait sauter le fond.
Non, je ne supporte pas ce truc. Oh, punaise.
Bon, là, il dit quand même, quand vous regardez une série, vous êtes sollicité par l'ordinateur ou le téléphone, l'action doit être plus rythmée.
Quoi ?
Cela crée un sentiment de lassitude, car à force de regarder tant de séries, on voit la fabrique derrière. Là, il y a un truc qui il touche quand même un petit truc quand même. C'est qu'à force de voir les séries, on connaît un peu les habitudes des séries. Donc
mais encore une fois, c'est toi, le sériephile, qui regarde énormément de séries. Je ne suis pas sûr que ça parle à tout le monde, en fait, ça.
Et puis, c'est le même système qui peut s'appliquer aux films. Enfin, je ne vois pas en quoi c'est la différence.
Ah ben, non, parce que pour eux, les films, tu les regardes au cinéma. Donc déjà, tu ne sors pas ton téléphone au cinéma.
Tu n'as pas une sorte d'habitude qui s'installe.
Là, le film à la télé, non, ce n'est pas un film, quoi. C'est un téléfilm. Donc déjà, tu ne casses pas les pieds. Et mais en effet, je suis d'accord avec toi. Que tu regardes ta série ou ton film à la télé, tu fais pareil, tu sors ton téléphone et tu fais autre chose en même temps. Donc,
Ok, pour les distractions, mais aussi pour les mécanismes derrière. C'est la même chose.
Et c'est parce que tu es cinéphile aussi que tu vois énormément de films et que t'es conditionné, que tu essayes de regarder la photographie, tu regardes les jeux des acteurs, tu regardes le machin. Mais les gens lambda, je suis pas sûr que tout le monde se dit, bah, tiens, en effet, c'est super cette photographie, j'adore la couleur de l'image, quoi.
Mais, bon. Mais je veux dire que c'est pas ça la différence qui distingue l'un de l'autre, quoi.
Bah là, il y a plus du tout de différence, de toute façon. C'est juste la façon de proposer l'œuvre et de la découper. Parce que justement, je pense que lui n'a pas vu beaucoup de séries parce qu'en fait, il dit « À mon sens, le roman comme le cinéma devrait davantage s'inspirer de l'effort d'efficacité dramaturgique des séries, alors que la série, elle, doit apprendre de l'ambition visuelle du cinéma. » Alors qu'on n'en est plus là, en face. Ça fait 10 ans qu'on n'en est plus là, quoi.
Il enfonce des portes ouvertes, quoi. C'est le... Enfin,
non,
c'est...
Mais la conclusion est encore mieux. Mais le cinéma et les séries restent différentes.
Parce que... Le cinéma se sérialise avec, par exemple, tout ce qui est Marvel, tout ça. Il crée une sorte d'épisode événementiel tous les 2-3 ans, voire même peut-être même,
ouais, même non, plus même que pas, ça, tous les ans.
Même tous les ans. Alors que la série devient des longs films. Donc, en fait, c'est...
Il coupe un petit morceau.
Ben voilà, donc ça fait moins de 10 ans que c'est un peu comme ça. Mais voilà, la série n'a rien à apprendre du cinéma et inversement, enfin plus maintenant. C'est comme tous les livres qui sortent sur les séries. C'est comment parler de séries, à qui on doit s'adresser.
C'est déjà has-been, en fait. À chaque fois qu'un nouveau livre sort, je le trouve déjà passé.
le temps d'écrire un livre et de le sortir, et la tendance est déjà, t'as vu à quelle vitesse on va, tendance est déjà terminée depuis longtemps. Donc évidemment, ou alors à moins d'anticiper une tendance, mais alors là, d'avoir une chance folle et qu'au moment où ton livre sort, il y a quelque chose qui se passe qui va dans le sens de ton livre, ça peut arriver, hein, un coup de chance.
Là, le magazine Mad Movies, qui est spécialisé dans les films fantastiques, d'horreur et science-fiction, les films de genre, va sortir là hors série Game of Thrones, donc juste avant la saison 7.
Juste sur Game of Thrones.
Ouais. Et il y en a beaucoup qui disent. Alors d'habitude, les hors-séries, c'est sur les gros films classiques, les gros films d'horreur. Là, vous faites sur une série que tout le monde a écrit dessus. Donc il y en a qui ne l'achèteront pas. Il y en a qui disent ça ne sert à rien de sortir un hors-série avant la dernière saison. C'est comme sortir un intégral sans la dernière saison. Là, on surfe sur des choses comme les livres sur les séries. On surfe beaucoup sur. On va mettre en avant une ou deux séries, alors que les livres sur le cinéma, c'est jamais à cause d'une tendance, en fait. Sauf si peut-être, il y a peut-être eu des livres sur les comédies musicales après le succès de La La Land, ils se sont dit, tiens, on va sortir un truc sur les meilleures comédies musicales, et choses comme ça. Mais c'est des trucs qui vont rester...
Je pense que maintenant, les séries ne resteront pas dans le livre. Peut-être Game of Thrones, et encore, je sais pas, tu vois, mais vraiment, honnêtement...
Non,
maintenant...
Marina, il y en a deux. Il y a Lost, X-Files, point barre.
Castle,
si tu veux.
Compte tenu de l'offre, c'est pas possible. Il y a trop de choses qui sont. Enfin, tu vois, quand t'as trop de demandes, à un moment, ça tue la demande.
Oui, il y a trop de films aussi. Enfin, tu vois, on n'en parle pas de tout.
C'est un faux débat aussi.
Oui, les séries maintenant, ça invente plus rien. Ça fait que redigérer ce qui a déjà été,
Qu'est-ce que j'aimerais pas vivre dans ton monde ? Quelle horreur.
Et aussi, je tiens juste à dire triste. Pour la langue, là, il y a pas vraiment une recrudescence de ventes de livres sur ce comédie musicale. Hein. Il y a
des comédies musicales au cinéma. Hein.
C'était un exemple. Oui. Je dis peut-être à qui. Attention.
Alors non. Voilà, la réponse est non.
Surtout que les livres sur les séries, la plupart du temps, c'est des séries qui ne sont pas terminées. Donc, quel est l'intérêt de faire un livre sur des séries non terminées ? Tu vois, tu citeras...
Vendre.
Imagine, tu vas citer tous les livres qu'il y a eu sur Walking Dead, alors que maintenant, c'est plus du tout une série qui attire les gens.
Qui fait vendre, ouais.
Tu vois, c'est... La série, ça se prend... Bon, déjà... C'est un autre débat, mais ça se prend plus de saison en saison. Maintenant, ça se prend dans sa globalité. Mais justement, est-ce qu'il faut attendre qu'une série se termine pour en parler ?
Non.
Non.
En écrit, en livre, tu parles ?
Mais on écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime.
Alors toi.
Enfin, non, ça serait complètement dommage d'attendre la fin, l'entièreté d'une série avant de commencer à écrire dessus, bien sûr.
Je parlais justement des livres, tu vois, des livres qui sont une sorte de dimension un peu, définitive, tu vois. On sort un livre pour dire, voilà, c'est pour être un témoin de quelque chose. Les magazines, c'est peut-être plus ouvert. On peut parler de tout ce qu'on veut, évidemment. Justement, on va parler des...
Parlons de livres. Je ne sais pas si vous aviez lu ça il y a quelques années. Bah, je dirais il y a presque 12 ans maintenant, parce que je l'avais acheté pour mon bac. Ça s'appelait « Philosophie en série ». Oui. Non, ça ne vous dit rien.
C'est possible.
Peut-être.
C'était quand ton bac ? C'était quand ton bac ? Parce que nous, on était déjà...
2006 ou 2007 ?
On était déjà vieux.
Ouais, on était déjà vieux, ouais.
Je l'ai passé en 2005 à qui n'ait pas peur de vaincre.
Qu'est-ce que je fais dans ce groupe ?
Je ne sais pas non plus, moi. C'est fini, là, c'est mort, on s'en va.
J'ai dû les ranger récemment, je les ai jetés, voilà, parce qu'ils ne sparquaient pas de joy récemment. Et en relisant rapidement le sommaire, je trouvais ça complètement has-been, quoi. Et j'étais, mon Dieu, comment j'ai pu acheter ça à l'époque ?
Moi, je me rappelle, à l'époque, je les ai encore, de Friends. À chaque fin de saison, il y avait un petit bouquin qui sortait, qui analysait les saisons de Friends. Je les ai encore tous, mais parce que, à l'époque.
Une série, Marina?
J'ai encore le dictionnaire des séries. Enfin, j'ai plein de trucs.
Moi aussi, j'ai le dictionnaire. Ça, c'est un peu que je regrette. Hein.
Le dictionnaire, c'est des trucs. T'as plein de séries qui... Enfin, ça sert à rien, un dictionnaire de séries.
Moi, j'ai gardé les guides officiels et non officiels d'X-Files. C'était trop bien, ça.
Surtout qu'un dictionnaire de 2006 des séries, ça sert à quoi ?
Voilà. C'est ça. Mais moi, je parle pour Friends, mais il y avait... Friends, il y avait vraiment... Il y avait vraiment une dimension sociologique, il y avait vraiment on entrait dans les backstage, les secrets des coulisses, que à l'époque on pouvait pas savoir autrement que par ces bouquins ou par les émissions télé ou les choses comme ça. Maintenant avec Twitter, Instagram, t'as le nom de l'épisode parce que le mec à la lecture du scénario, il va le prendre en photo. Donc avoir un bouquin sur les secrets des coulisses, bon, tu te dis bah non, je vais sur Instagram ou sur Twitter, c'est très bien aussi, tu vois. Donc je sais pas.
Très bien. Bon, bah passons au cœur du sujet, les magazines séries. Qu'est-ce que si je vous dis magazine série, le premier qui vous vient à l'esprit?
Série Mag et Wad.
Mag.
Mais alors, Série Mag, qui est, je crois, là, s'est terminée dans une sorte de scandale un peu financier, parce qu'il y a oui. des abonnés qui n'ont jamais reçu leur magazine.
Ah, je ne sais pas. D'accord.
Et
c'est assez récent, en plus. Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça.
Tu mets Série Mag sur Google, tu as Série Mag / One, arnaque en série, des choses comme ça. Quoi.
Ah, pratique.
Il y en a qui n'ont pas eu la fin de leur abonnement, parce qu'évidemment, je pense qu'il y a eu une liquidation judiciaire et. Il n'y a pas eu de remboursement, enfin voilà, il y a eu. Alors que c'était un magazine qui a duré quand même très très longtemps et qu'il y en avait un peu pour tous les goûts. C'était vraiment bon, c'était grand public, enfin pas grand public, mais plutôt voilà jeune, le public de l'époque, quoi. C'est-à-dire allez les 15-25 ans, quoi.
Typiquement, pour le coup, donc avant l'ère d'Internet, c'était vachement bien d'avoir ta petite interview, d'avoir des détails sur ta série et les petites cartes à collectionner. Je m'en rappelle encore.
Ah ouais.
Moi, je préférais les posters personnellement, mais bon après.
Il y a toujours un magazine qui existe, qui s'appelle Série Télé, tout simplement, enfin TV, qui a été lancé en 2000, qui existe toujours. Alors, je ne sais pas s'il a vachement évolué au niveau contenu, mais je pense qu'il y a toujours des interviews. Je pense que niveau spoiler et actu, je pense qu'ils sont à la ramasse et qu'ils ne doivent pas en faire. Donc, ils doivent surtout faire les sorties DVD, et encore ça, il y en a de moins en moins. Et c'est déjà dépassé, surtout pour des magazines qui sont le plus souvent trimestriels. Donc, voilà, au bout de deux mois,
comme disait Marina, sauf que maintenant, aujourd'hui, en effet, on peut suivre les acteurs sur Instagram, on est flûté sur Twitter. Dès qu'il y a une info qui sort, t'as tous les médias américains qui le reprennent, tous les médias français qui le reprennent. Enfin, ne peux plus rater aucune information. Donc, est-ce que ces magazines-là ont encore une utilité? À moins qu'ils proposent des choses très intéressantes, des dossiers qui valent vraiment le coup, je suis pas sûr que ce soit.
En plus, leur cible, si je ne me trompe pas, c'est un peu jeune quand même, les gens qui regardent les séries. Donc, ils sont forcément sur les réseaux sociaux. Ils ne s'adressent même pas à une cible qui, éventuellement, ne serait pas trop Internet et tout machin. Donc, moi, je ne vois pas l'intérêt. Par contre, à l'époque, moi, j'ai encore des générations, pas Série Mag, mais Génération Série, j'ai encore des numéros Génération Série que je garde. Ça parlait de séries moi que j'adorais et que maintenant on retrouve plus trop parce que c'est des séries un peu pointues entre guillemets où il y a eu une saison ou des choses comme ça. J'ai encore plein de numéros de Génération Série moi,
ça a été lancé en 91 par Christophe Petit et en fait bon, il y a eu Alain Carazé, Martin Vinclair, Sullivan Le Postec qui ont écrit dessus et en fait je me souviens que ça s'est terminé je crois en 2004 et donc il y avait encore il y avait à cause d'Internet aussi et je me souviens il y avait des débats sur les forums qui disaient que beaucoup n'achetaient pas le magazine parce que voilà il y avait pas les séries qui les intéressaient
donc bah, c'était beaucoup ça. La CW aussi hein
Génération Série non
ah mais pardon
ah non Génération Série non c'était
Génération
vraiment
Série c'était des gros dossiers voilà ils parlaient d'une série avec ça. Le guide d'épisode et une petite analyse il y avait très peu il y avait de l'actu les petites annonces aussi je me souviens
mais peu d'actu,
mais c'était pas le gros truc, les interviews, il n'y avait pas non plus des masses, ou alors c'était soit des comédiens de doublage ou des choses comme ça, mais c'était vraiment une sorte d'encyclopédie. Et
ouais,
c'est vrai que souvent tu avais 3-4 séries, c'est vrai qu'il était très cher, il y avait très peu de pages, et il y en a qui n'achetaient pas parce qu'ils disaient bah non, c'est 3-4 séries, soit ça passe pas, soit je les regarde pas, donc je l'achète pas. Alors que des magazines comme Série Mag ou Série TV, on achète parce qu'il y a un peu de tout, quoi. C'est souvent...
ouais.
Bon après peut-être qu'à l'époque moi j'achetais parce qu'il y avait un poster de Dawson ou des choses comme ça quoi mais
les posters moi je les achetais que pour les posters hein, personnellement
moi j'en avais plein ma chambre
les posters de Smallville que je pouvais en avoir
moi c'est des chats.
Oui, voilà, je vois très bien le poster dont tu parles, je pense, mais non, je sais pas. Mais c'est marrant que vous parliez des posters parce que du coup, j'ai cherché Série Télé, là, le magazine sur Google, et visiblement, ils vont proposer une formule abonnement. Et quelqu'un a répondu que ça dépendait qu'il achetait en fait le magazine selon les posters qu'il y avait à l'intérieur. Donc comme quoi, c'est encore l'argument de vente d'aujourd'hui.
Oui. Ah, il faut bien décorer sa chambre, hein. Moi, je suis désolé.
Moi, je me souviens d'un poster de Charmed, donc c'était la photo promo de la saison 1. Ils avaient remonté le décolleté d'Alyssa Milano. Voilà. Parce que j'avais comparé deux images. Je fais, tiens.
Le mec, il a comparé des images. C'est beau. Professionnalisme jusqu'au bout des ongles.
Ah oui. Il y avait donc le magazine Série Mania que j'en ai parlé tout à l'heure et personne ne s'en souvenait.
Ah non.
Si, si. Si, moi, je m'en rappelle.
Série Mania, c'était plutôt cool parce que t'avais vraiment de tout. Et c'était l'un des rares magazines. Bah, je crois qu'il sortait tous les mois et t'avais vraiment plein d'infos, plein d'actu. Bon, après. Avec le temps, j'ai vérifié certaines infos. Et des fois, c'était un peu faux, quoi, parce que c'était souvent la traduction, les choses comme ça, les envois spéciaux des États-Unis. Donc, il y avait vraiment des infos un peu sur le nombre d'épisodes, les saisons, si c'était annulé ou pas. Tu n'avais pas encore cette culture que tout le monde a maintenant, quoi. Mais Série Mania, j'ai encore pas mal de numéros. Je me souviens qu'ils avaient aussi changé beaucoup de formules avec l'arrivée d'Internet. Il y avait aussi des magazines qui ont fait... Suite à Série Mania et Série Max, c'était Artelius et Arcanium.
Ah, mais je vois. Bah ça, j'étais spécialisée un peu fantasy, donc voilà. Il y avait beaucoup de formes là-dedans, je m'en rappelle.
Il y en a beaucoup qu'on citait ça sur Twitter. J'ai posé la question quel magazine vous avez lu. Et beaucoup citaient Artelius et Arcanium, qui était. Le rédacteur en chef, c'était Franck Dauquier, qui s'occupait de magazine officiel X-Files en France. Et lui, il était très, très spécialisé au niveau des montages photos.
De quelle série tu dis?
J'entends pas, j'entends très mal Marina, c'est bizarre. Tant pis. Et il était très spécialisé dans les montages, il faisait beaucoup de montages avec les têtes des acteurs sur des anges ou des choses comme ça, donc c'était très. Sur des anges, sur des.
Ah, mon Dieu, pardon.
Non, c'était très. C'était un peu cucu, quoi, mais c'était. C'était Heroic Fantasy. Il y avait vraiment des gros montages avec beaucoup de filtres et beaucoup de calques. Enfin, c'est des trucs.
Oui.
Et ça, c'était en 2005, Artelius Arcanium. Je crois que l'un fait la suite de l'autre, je crois. Je crois qu'Artelius. Non, c'est Arcanium qui a duré le plus longtemps, je crois. Mais tu voyais que c'était vraiment du visuel, quoi. La mise en page était. Bah, c'était super, quoi. Mais je pense que ça coûtait beaucoup d'argent. Il n'y avait rien dedans. Ouais. Enfin, c'était vraiment ciblé très, très jeune, quoi.
Mais ça faisait un peu tout ça, effectivement plus quali que Série Mag ou One.
Ouais. C'était vraiment de l'apparence plutôt que du fond, quoi. En 2007, en février, il y a eu Générique avec un S entre parenthèses qui est sorti.
C'était
deux personnes de Cahiers du Cinéma qui ont décidé de faire un magazine un peu qualitatif sur les séries. Bon, ça a duré 27 numéros, c'est terminé en 2010. C'était très très grand format, je me souviens, mais c'était vraiment les séries. Bah, c'était à l'époque où tu avais encore Dexter et tout ça, donc ça parlait vraiment de ces séries-là. Comparé à d'autres, comme à Série Mag et tout ça, qui était vraiment CW. Je me souviens, alors j'ai vu que, par exemple, pour le troisième numéro de Générique, il n'y a eu que seulement 15% des 22 000 exemplaires qui ont été vendus. Donc c'est vraiment des magazines qui ont eu beaucoup de soucis financiers et qui n'ont pas duré, comme Épisode et Épisodique, que Alain Carazé avait sorti aussi. Avec un DVD, ça aussi, ça n'a pas duré parce que c'était beaucoup de pages, beaucoup de mises en page et tout ça, mais très peu de public finalement parce que c'est vraiment, on était en 2007, donc l'Internet était déjà là. Et c'était surtout il n'y avait pas beaucoup d'infos, quoi. Il y avait la page spoiler qui était imprimée à l'envers, il fallait retourner sur son magazine. Mais voilà, le public était déjà sur Internet, il découvrait tous les forums, tous les sites. Donc là, c'est vrai qu'au niveau des magazines, il y avait beaucoup de morts, quoi. Donc voilà, le seul qui reste en ce moment, c'est Série TV. Il y a aussi, enfin, des fois quand je vais dans les magasins de presse, je vois beaucoup de titres genre Série Scope, Série Saga, des trucs. C'est pas du tout qui sont derrière
ces
magazines.
Mais c'est pas des trucs un peu éphémères parce que j'ai l'impression qu'ils durent pas trop quand même parce que. Enfin, en plus, je vois pas dans cette économie comment leur business plan, dans le sens où tu vois très bien que ça peut pas marcher. Enfin, je vois pas les gens qui mettent de l'argent dedans et jeter de l'argent par les fenêtres. Comment tu peux, alors, la presse écrite déjà va mal quand tu parles d'actualité ou quoi. Déjà, ça se vend moins bien alors que c'est immédiat, c'est des quotidiens et tout. Mais quand tu parles de séries, le temps que ça sorte et tout, t'as déjà 40 000 articles sur Internet qui sont sortis sur tous les angles possibles et imaginables. imaginable.
Il faut dire aussi que tous les magazines de presse ont plus ou moins une rubrique série aujourd'hui. Hein. Les Arocs, il y a Olivier Joyard qui écrit toutes les semaines. Mac Figaro qui a ses trucs sur les séries. Le Point Pop. Tout le monde s'est approprié. Pourquoi les magazines avaient... Enfin, il n'y a plus d'espace pour les magazines spécialisés pour le coup. Parce que tout le monde va se lire... tiens, t'as un tweet du Figaro, tu vas lire le Figaro. Tu as un tweet du Parisien qui fait un article sur la saison 3 de 10%. Tu vas sur le Parisien pour lire ton article sur 10%. Enfin, il n'y a plus d'intérêt d'avoir des magazines spécialisés pour le coup. Quoi. Parce que tout le monde s'est mis à avoir une partie spécialisée dans sa propre rédaction.
Oui, mais alors, tu sais, il y a encore des magazines cinéma. Bon, il y a très peu, mais il y en a encore. Parce qu'il y a les cinéphiles...
Non, mais moi, j'aimerais bien savoir s'ils fonctionnent aussi. Quoi.
Les cinéphiles ne vont pas aller chercher ça dans d'autres magazines. Ils ont leur magazine ciné. Alors, pourquoi il n'y aurait pas de magazine ciné?
Pareil, j'ai arrêté d'acheter le magazine cinéma comme première ou ciné... Oh merde, comment ça s'appelle le truc? J'ai arrêté de les acheter parce que, pareil, en fait, au final, j'allais sur d'autres sites, j'allais sur d'autres presse parce qu'ils avaient aussi des bonnes trucs de séries, de cinéma et de séries. Enfin, même, ça revient à la même chose pour les séries, mais enfin, il y avait suffisamment, je trouvais ailleurs et pour moins cher. Donc, pour le coup, voilà.
Juste pour dire, les magazines style Première, etc., ils ont quand même accès à des talents pour du long format, enfin, pour des interviews un peu plus longues ou des dossiers un peu plus longs.
Voilà.
C'est ça. Donc, en fait, je pense que c'est plus pour le contenu inédit auquel on n'a pas accès et surtout qu'ils le réservent pour le print.
Et il y a beaucoup de magazines qui ont fusionné, voilà, Studio Cinelive ont fusionné. Il y a beaucoup aussi de magazines qui étaient mensuels, qui sont devenus bimestriels, ensuite trimestriels, parce qu'ils savent que voilà, c'est l'économie. Voilà. Mais surtout, le problème, c'est pourquoi il n'y a pas de vrais magazines séries comme il y a des magazines musique, magazines ciné. Est-ce qu'il y a, finalement, la question, c'est est-ce qu'il y a des journalistes séries?
La question est délicate parce qu'on risque de froisser pas mal de monde quand même. Hein.
Non, mais est-ce qu'on n'a pas été chercher des journalistes ciné ou télé pour parler série dans les magazines?
C'est exactement ce qui s'est passé. Hein, voilà. Donc, oui. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se prétendent journalistes séries, qui ne le sont déjà pas forcément journalistes aussi, et puis après qui...
Juste journaliste déjà, quoi.
Oui, oui, aussi, voilà. Et qui après... voilà, maintenant, j'ai perdu mon fil de pensée. c'est pas grave, j'en reviendrai.
Ça manque quand même de noms. Enfin, voilà, nous, on peut en citer, mais il y a des plumes qui sont spécialisées, mais est-ce que c'est... Justement, il y a peu de journalistes séries, tout ça, parce que peut-être qu'on considère encore les séries... Il y a eu l'âge d'or des séries, donc il y a eu des plumes peut-être qui sont sorties, mais maintenant, en fait, les séries sont passées de bouche-trou à l'époque à surconsommer maintenant, et ça joue encore en la défaveur du terme journaliste-série aussi, peut-être.
En France, je pense qu'on reste un peu élitiste, voire péteux, avec les séries, mais avec tout, en fait. On a toujours fonctionné comme ça, et c'est un défaut, clairement. Mais la série, ça reste quand même un truc où, à moins de regarder True Detective parce que c'est très lent et parce que c'est super cool, les séries, c'est du caca. Donc, je pense qu'on est...
Je rejoins Iris dans le sens où les gens qui critiquent, ou les journalistes séries qui critiquent des séries un peu moins élitistes, on va dire, c'est ceux-là, je suppose, que vous ne considéreriez pas comme des journalistes. Alors que ceux qui vont critiquer, je sais pas, The Leftovers, typiquement, oui, alors peut-être que ce sont eux les vrais, qui sait.
Non, le problème, moi, ça, du coup, ça me concerne. Le problème,
mais
c'est que.
Marina, typiquement, ça te concerne. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui te disent, je vais t'attaquer, mais t'écris sur Melty, comment tu peux te prétendre journaliste série?
Alors, moi, déjà, journaliste, ça me dérange beaucoup parce que, moi, je ne me considère pas comme une journaliste, mais dire qu'on a aussi un modèle économique et que si on pouvait parler de toutes les séries qu'on voulait, ce serait merveilleux. Maintenant, effectivement, on est tributaire d'un trafic, de clics, de choses comme ça. Donc, on peut pas parler de The Leftovers ou de, enfin, nous, du coup, à Melty, par exemple, on essaye de parler de, enfin, je sais pas si je peux pas, bon, bref. Non, mais on est Non, mais parce que je ne sais pas si je ne suis pas...
Faites attention à ce que tu dis, quand même.
Oui,
non, mais on est tributaire de clics, et je ne pense pas, et je pense pas qu'on soit les seuls, mais on est tributaire de clics qui fait qu'on ne peut pas toujours parler de ce qu'on veut. Après, peut-être qu'il y a d'autres sites, comment dire, qui peuvent s'affranchir de ce genre de choses et parler de séries qui sont un peu plus dans la niche, certainement, mais... Il faut aussi voir que le journaliste est pas et ne peut pas parler de ce qu'il veut, sinon ça s'appelle un blog.
Je dois avouer, donc moi non plus, je me considérais pas du tout journaliste lors de mon passage chez Mademoiselle, mais j'avais vraiment alors une marge de manœuvre énorme dans le sens où je pouvais vraiment parler de tout. Donc j'ai parlé de Fleabag, alors l'article doit avoir, je ne sais pas, 3000 vues par exemple, contrairement à d'autres articles qui ont cartonné, mais au moins j'ai pu parler de Fleabag.
Mais alors, je vais revenir sur une expérience. Mais moi, à la base, quand ils m'ont embauché sur Melty, c'était exactement pour faire ça. C'était pour avoir d'essayer d'ouvrir leur perspective et d'essayer de parler de séries différentes. Enfin, je vais dire différemment, non, mais de séries différentes et de pour essayer d'attirer un nouveau public, quoi. Mais bon, après, ça a été rattrapé par l'histoire du. Ben, il faut faire du clic et voilà, quoi. Et c'est passé à la trappe et bon, après, ben, ça s'est mal terminé, mais c'est une autre histoire. Mais voilà.
Ça change la donne quand t'es pas tributaire de clic aussi, tu vois, parce que, effectivement, on est dans une société où il y a beaucoup d'offres. Tous les sites maintenant ont une partie série, que ce soit leur thème principal ou pas, le Figaro, les Un Rock et tout. Ouais. Et du coup, même les radios maintenant ont une partie série, alors que tu vois, il y a rien de trop à voir avec le Schmilblick. Mais mais effectivement, peut-être que quand t'as d'autres, quand c'est pas ton sujet principal, t'as par exemple l'actu ou des choses comme ça, tu peux peut-être aller d'une manière un peu plus pointue et parler de séries qui ne marchent pas trop. Enfin, j'en sais rien comment ça fonctionne.
Ouais, et moi, est-ce que le fait de ne pas avoir une écrite, d'avoir un blog justement, je reviens à Small Things puisque c'est là que j'écris. Est-ce que ce serait
hein, c'est ça
tout à fait smallthings.fr. Moi, comme tous ceux qui ont participé ou qui participeront à ce blog, ils le font par passion avant tout. C'est-à-dire que moi, j'ai eu de la chance avec alors au niveau du blog, hein, on est d'accord, parce que j'entends Aki qui dit que 3000 c'est pas beaucoup de vues, alors que nous 3000 c'est jackpot.
Mais t'inquiète, j'étais sur Smallthings avant aussi. Hein.
Je fais pas de comparaison. C'est pas la même chose, mais voilà, j'ai écrit un article passion sur Doctor Who. Donc celui-là, il a fait plus de 2000 vues. C'était génial. Et puis à côté, j'ai écrit un article sur Secret Médical qui a eu 4 épisodes pour une saison, qui a été diffusé quasiment en scrut sur Arte, parce que personne ne regarde des séries sur Arte, ce qui est une erreur, à mon avis.
Ce qui est faux, en plus, mais bon, oui. C'est pas grave.
Et, non, mais évidemment, mais sinon, il continuera pas de diffuser, mais tu vois ce que je veux dire, enfin, va pas la faire à l'envers, on a bien compris. Et est-ce que ce serait pas la solution, c'est-à-dire d'avoir des gens passionnés et qui se foutent des clics en disant ça. Je n'en vis pas, évidemment, en disant ça. Mais si on a la possibilité de passer en mode passion et de faire un métier autre chose, d'autres types d'articles, j'en sais rien, ou d'avoir des articles plus mainstream ou je ne sais quoi, qui rapportent plus de clics, enfin voilà, moi je vis dans le monde des bisounours. Je suis désolée, j'apprécie ça, c'est vachement agréable.
C'est marrant, c'est le monde des bisounours. C'est juste que c'est deux choses différentes. Là encore une fois, tu peux pas comparer un blog avec tout le respect que je dois au blog, mais tu peux pas comparer un blog avec un site professionnel ou quoi, parce que les modèles économiques sont pas du tout les mêmes, les résultats attendus sont pas du tout les mêmes. Effectivement, un blog, tu le fais par passion. Enfin, je mets au défi quiconque de passer du temps à écrire sur quelque chose si ce n'est pas muet par une passion. Tu le fais forcément, tu vois, parce que sinon tu vas dehors et tu vas faire autre chose. Mais effectivement, non, donc je dis pas que c'est un boulot où tu vas bosser à la mine, hein, loin de là, mais c'est un boulot très agréable. Maintenant, effectivement, tu as une ligne éditoriale, tu as une cible, tu peux pas parler de tout et de n'importe quoi. Sachez qu'il n'y a pas que Game of Thrones, il n'y a pas que Netflix, il y a aussi cette petite série qui est très sympa, des choses comme ça qu'on a envie de faire découvrir, quoi, tu vois. Mais effectivement, je te rejoins, Iris, c'est que si on pouvait faire que des trucs de blog par passion et en vivre, bah, ce serait la cerise sur le gâteau. Malheureusement, c'est deux choses que tu ne peux pas comparer, quoi.
Par rapport au niveau des magazines, je pense que les premiers premiers numéros de certains magazines séries étaient vraiment faits par passion, avec pas vraiment un désir de vente, avec des articles un peu putaclic à l'époque sur le papier. Je sais pas comment on pouvait appeler ça, mais Iris t'avait écrit, enfin pour Série Max, t'avais fait un truc.
Ouais.
Alors Série Max, je sais plus qui avait créé ça.
Alors moi non plus, honnêtement.
Mais c'est vrai que c'était fait vraiment par des passionnés, parce que je crois qu'il n'y avait pas du tout de salaire à l'époque, il n'y avait rien du tout, les piges n'étaient pas du tout payées, je crois. Et c'est vrai, je pense qu'il n'y avait pas non plus de ligne éditoriale, enfin c'était un peu les sujets qu'on voulait, je crois. Non, ça n'a pas duré
ça n'a pas beaucoup duré, plus... et oui, c'était...
Pardon, ce que je veux dire, c'est qu'à la base, c'était plus des fanzines qui se sont professionnalisés plutôt qu'un magazine professionnel de base.
Est-ce que justement le plus gros problème, tout simplement, c'est qu'on a toujours pas réussi à savoir parler de séries, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on est tributaire un peu d'un mode de consommation que chacun s'est approprié. Alors que pour le cinéma, bah voilà, on parle du film, voilà, c'est une entité, c'est le film. Les magazines séries, on parle des singles qui sortent, de l'album entier. Alors qu'une série, c'est un peu bâtard parce qu'on ne sait pas. Comment le parler ? Est-ce qu'on parle des premiers épisodes ? Est-ce qu'on parle du pilote ? Tout le monde a déjà vu la série en entier ? Est-ce qu'on parle de la saison entière ? Est-ce qu'on parle de la... Comment parler série, tu vois ?
Mais c'est intéressant parce que est-ce qu'une série, c'est juste... Enfin, parler de série, c'est juste une critique comme on critiquerait un film. Une fois, j'avais lu un article, je ne me rappelle plus où est-ce que c'est... Je ne me rappelle même plus si c'était américain ou français, mais l'auteur faisait une sorte de live tweet... de l'épisode qu'il regardait, mais tout ça dans un article. Et en fait, j'avais trouvé ça hyper rafraîchissant, un peu frais, quoi. Frais. Et ça changeait du format habituel de j'analyse les trois épisodes que j'ai vus, blablabla. Bla. Donc, effectivement, le format peut-être d'un article série est à revoir, enfin, peut être revu, du moins.
Bah ça, c'est que la consommation joue beaucoup et savoir comment parler d'une série, surtout à qui, quoi. C'est à nous de... En gros, en fait, la musique cinéma, ils imposent le format d'article, on va dire, et c'est à toi de les lire. Alors que la série, je trouve que c'est plutôt à toi d'aller chercher l'article que tu voudrais, quoi. Parce que pour un film, tu vas chercher la critique du film. Pour une musique, tu vas chercher la critique de l'album. Alors pour une série, qu'est-ce que tu vas chercher ? La critique de la saison, la critique de l'épisode, qu'est-ce que tu vas chercher, en fait ? Tu sais pas.
C'est pas faux.
On avait parlé un peu de ça dans un Happy Hour série. On avait fait comment parler de série.
Oui, ça me rappelle quelque chose.
Et c'est vrai qu'on chacun a sa manière, un, de regarder et deux, de critiquer aussi, quoi. Donc c'est un peu. Faut que les forces se rejoignent et ça, c'est super difficile en fait.
Et mais non, parce qu'il ne faut pas que ça rejoigne, parce que sinon, tu te retrouves avec une manière totalement. Homogène mais monotone, quoi. C'est-à-dire que t'as une seule voix et non, parce que effectivement le but dans cette diversité, c'est aussi parce qu'il y a autant de personnes il y a autant de séries que de personnes, de profils de personnes qui la regardent. Moi par exemple, je suis oui, mais non, c'est pas le problème. Mais c'est si. Au contraire. Ben non, parce que chaque site va répondre à quelque chose.
Évidemment, c'est pour tout, c'est pareil. Tu auras des interviews de chanteurs, tu auras des critiques d'albums. Ça, c'est pour tous les arts. T'as des choses différentes. Mais le problème, c'est comment parler série. Tu vois, on va parler, on va passer à la presse en ligne, par exemple. Là, tu vois, il y a plein de séries qui se ressemblent. Série Lucy ne ressemble pas à Melty, qui ne ressemble pas à Small Things, qui ne ressemble pas à Première Série, qui ne ressemble pas à Binge. Tu n'as pas une sorte de modèle qui se crée, quoi. Tu n'as pas une tendance.
Moi, je pense que c'est à des stades de la sériephilie. Pour le coup, j'ai arrêté de lire les magazines pour me mettre à Série Live. Site web qui n'existe plus aujourd'hui, malheureusement, qui faisait d'ailleurs des super podcasts que j'écoutais. Je m'en souviens encore. Je peux même vous dire ce que je faisais mon ménage et ma vaisselle en écoutant, donc c'était génial.
Et j'étais dedans.
Et oui, et il semblerait qu'en fait j'étais découvert là-dedans. Et pareil pour Lady Teruki aussi qui passait dedans et tout ça. Enfin bon, bref. Après, j'ai rencontré aussi l'un des fondateurs plus tard, mais bon, enfin bon, c'était un autre débat. Et au fur et à mesure, donc le magazine s'est terminé. Je suis tombé, j'ai été en peine parce que je savais plus ce que je voulais en fait, le site internet qui me plaisait, dont j'avais envie. Critique Too a réussi à plus ou moins combler ce vide-là pendant un certain temps, pendant au moins 2 ans. Et puis après, Critique Too, au final, je m'en suis lassé. Alors qu'ils font du super boulot, hein, c'est pas ça le contraire. Mais c'est parce que dans ma propre sériephilie, je me suis dit, tiens, en fait, maintenant, j'ai plus besoin de lire les critiques de l'épisode. C'est pas du tout ça qui me plaît. J'ai envie d'avoir des critiques un peu plus construites, un peu plus évoluées. Mais enfin, je n'ai plus besoin d'avoir constamment des news, de constamment des critiques d'épisodes ou des critiques de saison, parce que je me fais mon propre avis et je peux avoir un esprit critique vis-à-vis de ce que j'ai vu et j'ai pas besoin d'aller chercher des avis d'autres personnes pour confronter, et j'ai juste besoin en ce moment d'avoir que des interviews, donc je ne vais chercher que des interviews.
Je rejoins complètement Stéphane. Moi aussi, je recherche plus d'interviews, donc tu avais raison sur ce point-là, Marina. Et je dirais que l'approche société aussi dans les séries, ça m'intéresse typiquement, je sais que là aussi je vais me faire taper, mais Binge, sur certains articles, je les trouve assez intéressants parce qu'ils soulèvent les points féministes, donc forcément, oui, ça va m'attirer. Mais ça peut aussi être n'importe quoi, bon, surtout que ça c'est assez à la mode, entre guillemets, l'angle féministe dans les séries actuellement. Mais c'est vraiment aussi selon tes goûts et, comme tu dis, l'avancée de ta série finie, je suppose. Parce que la critique de l'épisode, c'est bien beau, mais un récap, en gros, c'est pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, c'est pas pour ceux...
Il y a beaucoup de sites qui font des récaps d'épisodes à chaque fois, plutôt que des vraies critiques. Quoi.
C'est pas intéressant, le récap. Les Américains font beaucoup ça, moi j'y trouve aucun intérêt, mais je préfère avoir une critique avec quelqu'un qui essaye de mettre en balle en perspective de certaines choses de l'épisode, plutôt qu'un récap moi aussi j'ai vu l'épisode, pourquoi tu veux me le raconter, quoi.
Il y a très peu de sites qui font ça en France.
Les récaps, mais ça, c'est parce que les récaps américains, les auteurs, ils mettent vachement de leur propre plume. Et du coup, on apprécie plus l'auteur pour son style que pour le récap tout court.
Mais pour revenir, il n'y a pas vraiment de sites qui font, de vrais sites professionnels qui font des critiques d'épisodes. Enfin, j'en vois pas.
Si, pour le coup, Melting, je ne sais pas, parce que depuis que je suis parti, je sais pas.
C'est plus des récaps que des vraies critiques. Et tu vois, c'est pas.
Honnête.
Regardez cet épisode-là, il y a eu un truc avec un titre un peu... Et ce n'est pas une analyse. Il y a vraiment dans les blogs Critique Too, je vais citer Small Thing. C'est ce que je veux voir dans un site, c'est des news et des critiques de saisons et d'épisodes. Et hors blog, il y a très peu, tu vois. Brain Damage, c'est des news. Seriously, c'est des news et des quiz. Binge, je sais pas trop, ça dépend, mais c'est plus de la tendance. C'est de la tendance. Il y a Perdusa que j'aime bien parce qu'en fait ils ont un ton un peu désinvolte. Oui. Ils font des choses un peu.
Ils font des critiques de saison beaucoup. Ouais, et, global, et de temps en temps, sur les séries qu'ils aiment bien, ils font des critiques d'épisodes. Maxime et Nicolas Robert faisaient aussi pour Crazy Ex Girlfriend. J'aimais bien aller lire leur critique d'épisodes d'ailleurs.
Ils font un peu genre les tendances. Ils parlent d'une série dans sa globalité un petit peu, dans un point de la saison. Et je trouve ça c'est pas mal. Et je trouve que maintenant, les sites pro, entre guillemets, il y en a très peu qui font ça, qui font de la vraie analyse, quoi, parce que peut-être ça intéresse personne, tout simplement.
Mais non, mais ça demande du temps, surtout. Enfin, je suis désolée, une saison, ça a 13 épisodes.
T'es payé pour ça.
Ouais, mais attends. Mais on n'est pas 50 000 dans la section série d'une plateforme professionnelle.
Pour faire un récap d'épisode, c'est beaucoup plus long qu'une analyse.
Si tu veux une analyse à l'épisode, c'est juste impossible.
On va juste passer sur le dernier truc, parce que pour voir les magazines presse, pour travailler un peu ce podcast, j'ai vu deux magazines avec intitulé « Les meilleures séries de tous les temps ». Alors c'est le même titre sur les deux.
Le truc qui fâche immédiatement.
Je peux juste, parce qu'on ne reviendra pas dessus, mais on n'a pas parlé de la presse de télé, quoi. Enfin, il y a pas beaucoup d'émissions, et les seules qu'il y a, elles sont pas forcément très intéressantes parce qu'elles sont très orientées vis-à-vis des chaînes et de ce que diffuse la chaîne, quoi. Moi, j'ai jamais trouvé mon bonheur là-dessus aussi.
Warner TV, là, j'étais très emballée par leur projet.
C'est non, enfin moi j'ai pas, j'aime pas quoi. Mais bon,
ben non, non, juste non. Mais au début j'étais vraiment, j'étais oh mon dieu, une émission qui a l'air 100% série, présentée par des gens dont j'apprécie le travail et que j'estime plutôt. Mais le résultat, c'est triste en fait.
Il y a eu Destination Série avec Jean-Pierre Dionnet et Alain Carazé qui parlaient un peu de toutes les séries, mais vu que c'était sur le câble, ils parlaient de tout, donc un peu des séries de Jimmy. Il y a eu Série Illimitée sur France 2 qui était présentée par Frédéric Joly. Ça parlait des séries un peu de France Télé. Donc il y avait eu Millennium, c'était à l'époque d'X-Files. Donc voilà, il y a...
Ah ouais, d'accord.
Et donc ça parlait voilà, d'Urgence, de Friends, tout ça. Il y a eu Télésérie sur M6 présentée par Stéphane Evano et Karine Lemarchand qui était toute jeune. Ça parlait beaucoup de séries d'M6.
Ah c'est oui, c'était avant la trilogie, non?
Non, non, c'était le samedi à 16h, ou dimanche à 16h.
Il n'y avait pas un truc avant la trilogie aussi qui parlait de séries?
Samedi Fantastique, c'était rapide, hein, c'était 5 minutes. Mais là, ouais, c'est pareil. C'est que d'ailleurs, tous les téléséries sont sur la chaîne YouTube de Karine Lemarchand. Vous pouvez voir, c'est très bien. Ouais, toutes les émissions séries, en fait, sont tributaires des séries de la chaîne. On peut pas faire. Et surtout maintenant.
Didier Alouche, là. Celle de Didier Alouche, le truc. L'hebdo Hollywood.
Ouais, l'hebdo Hollywood, ouais.
De temps en temps, ils font des spéciales séries, mais enfin, ça parle que des séries de Canal+, quoi. Et c'est juste le truc le plus frustrant au monde, quoi.
Et celle de CS, là. Ciné-série.
Charlotte Bloom.
Charlotte Bloom, oui.
Ouais. J'ai jamais vu. Je dois
j'ai regardé dire. Un ou deux. J'aime beaucoup comment elle est plutôt à l'aise dans sa présentation, dans sa manière de parler. Ça, j'apprécie énormément. C'est assez pointu, mine de rien. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Je ne sais pas si vous avez regardé.
Non, parce que c'est bon, je peux pas j'ai pas accès.
Si, je crois que sur YouTube, il y a des extraits, je crois.
Il y en a, ouais.
Et tu parlais de l'émission de Warner, c'est celle avec... Ils ont fait pas mal de pubs ces temps-ci là, sur un canapé avec l'anglais là, tout ça.
Oui.
Ah, oui. Il n'y a pas l'anglais, hein, il me semble.
Si, il y a un mec qui parle des mots anglais. Là,
pas Pierre enfin, l'anglais, mais pas l'anglais.
mon Dieu, j'ai oublié son nom. Paul.
Ouais, Paul quelque chose. Mais j'avais vu un reportage là, sur les rires enregistrés. Je trouvais que ça c'était trop condensé. Il n'y avait pas de vraies infos, je trouve. Donc c'était un peu bizarre. Enfin bref. Donc c'est bizarre aussi d'en parler à la télé, voilà. On est tributaire un peu des séries dont on a les droits. Mais alors donc pour revenir, donc les meilleures séries de tous les temps, vous voulez savoir bordel de cul?
Oui, moi je veux savoir.
Donc j'ai acheté, donc c'est un hors-série de Art Off. Alors je connaissais pas cette revue. Ça vient d'un groupe qui s'appelle Arcom, non Oracom. Et donc c'est un hors-série numéro 5, les meilleures séries, le top 100 des séries à voir. Ça coûte quand même 14,90€.
Quoi? Ah, t'as acheté ça?
Un magazine. Ouais, mais c'est Small Things qui paye. Donc
ça paye bien. Hein,
donc en couverture, Jon Snow, et puis Twin Peaks, Big Bang Theory, Les Sopranos, tout ça. Et donc le top 100. Alors, bon, voilà. Alors au début, donc t'as un top 100 avec genre 4 lignes sur la série. Et ensuite, c'est classé par genre crime, horreur, drame. Comédie, il y a aussi série culte, et dans série culte, donc ils ont mis X-Files, Buffy et la quatrième dimension Twin Peaks, jusque-là ça va, mais ils ont rajouté Black Mirror quand même, donc qui est sorti un peu.
Oh, dans série culte.
Oui.
On a passé de recul, c'est
tout
quoi,
petit peu trop tôt, oui, c'est ça.
Ah ouais, c'est ça.
Mais vous savez quoi? Je ne sais pas, parce que, alors j'écoutais.
Si, moi je sais, c'est beaucoup trop tôt.
J'écoutais le podcast de David Tennant. Voilà, le seul podcast que
j'ai
écouté.
Ah ouais, David Tennant.
Et donc, Jodie Whittaker, qui a joué dans un épisode de Black Mirror, elle expliquait qu'en fait, elle était complètement inconnue avant d'être connue grâce à son rôle dans Black Mirror. Et ouais, franchement, enfin...
Ça pose pas le côté c'est... culte, ça pose juste le côté...
Black Mirror, tout le monde connaît, après ça va, voilà.
Voilà,
ça. Mais surtout que dans l'intitulé de... Donc,
il n'y avait pas de Broadchurch avant?
Bon, si non, mais personne ne la connaissait dans Broadchurch, sauf des
personnes qui regardaient. Voilà, ce qu'elle disait, c'est qu'elle a été reconnue dans la rue à partir de Black Mirror. Voilà, c'est ça.
Okay. On s'en fout de Jodie Whittaker. Alors, donc, dans l'intitulé du sommaire culte, ils disent replonger dans les premières séries dites cultes. Et donc, ils mettent Black Mirror. Donc, c'est un peu...
Ah oui, les premières, oui. Du coup, là, ça ne va pas.
Alors, ouais, rapidement, donc, le top 100, bon, il y a un peu de... Alors, centième, Dawson Creek. Bon, jusque-là, voilà. Par contre,
moi, elle est dans le top 100, oui. C'est me plains pas.
97e, Lost.
Oh mon dieu.
Wow.
Alors, juste devant, Big Bang Theory.
Oh mon dieu.
Donc, après, on a. Non, mais, alors,
c'est intéressant, c'est intéressant, ok.
On a donc des petites séries aussi pas trop connues comme The Thick of It.
Ah c'était bah si. Ça.
Ah bah oui, c'est
britannique. 63e. On a Alias 59e, on a Oz 41e, on a Seinfeld 35e, True Detective 28e.
Ah ouais. Il y a Firefly quelque part. Oh, là, parce que...
Black Mirror, qui est donc considéré comme les premières séries cultes, est 34e. Firefly, oui, je l'ai vu, alors bouge pas. Ah oui, donc il y a Légion qui est 86e.
Ah ouais.
Firefly est 53e.
Ah, ça me paraît correct.
Ouais. C'est pas mal. Oui. C'est pas mal. C'est
alors,
pour une série à une saison, c'est
pas
mal.
Je vais faire le top 13 parce que 13e, c'est X-Files.
Que 13 ?
Quelle 12e, honte. West Wing. 11e, Twin Peaks. 10e, Stranger Things.
Mais non, non.
Mais non, oh là là, mais non.
Ensuite vient Buffy.
Ok.
Star Trek.
Ok.
Les Simpsons.
Attends,
les Simpsons ?
Les Simpsons, oui.
Les Simpsons, d'accord.
Doctor Who.
Ok.
Ouais.
Game of Thrones, 5e.
Non.
Ouais.
4e, The Wire.
Ouais, ok.
3e, toujours. Mad Men.
Non.
Oh là là.
2e, okay. Breaking Bad.
Oh non.
Et premier, les Sopranos.
Oui, j'ai gagné.
Alors, je sais pas qui a fait stop. Je sais pas qui a fait stop parce que voilà, pour mettre Stranger Things 10e, voilà, franchement, c'est.
Ouais, mais arrêtez quoi. Oh là là, mon Dieu.
Peut-on juger une série après deux saisons qui est pas terminée? Enfin, tu vois, c'est bon.
C'est ça.
Ah non, mais c'est
et puis surtout, c'est très. Enfin, là, c'est extrêmement subjectif, là, pour le coup. C'est le goût du mec, quoi. C'est le top 100 du mec qui a écrit le top 100, quoi. C'est pas possible. Il y a pas
c'est
de.
C'est une personne ou c'est une rédaction?
Ben alors, je ne sais pas, parce que j'ai cherché. Ben justement, j'ai cherché les rédacteurs et je suis tombé sur des journalistes qui font un peu tout et n'importe quoi et qui sont même pas journalistes pour certains. Il y en a qui font juste du web design. Il y en a
ah
qui
ouais.
font qui ont écrit
bon, en même temps ils regardent des séries
voitures,
aussi hein.
sur des voitures oui. sur... ouais bah c'est ça c'est en fait la question de tout à l'heure c'est où est-ce qu'on va trouver les journalistes séries on va les trouver dans d'autres rubriques tu vois dans les journalistes ouais. ciné dans les journalistes culture et tout ça quoi mais voilà enfin surtout donc après il y a 4 pages voilà sur ce top 100 après alors le problème c'est qu'ils remettent d'anciens articles pour parler de séries donc par exemple vous avez 3 pages sur Orphan Black et qui parle genre de la 3e saison. Bon, tu vois, parce que aucun intérêt. Ça parle de Babylon 5. Bon, tant mieux, parce qu'il faut parler de Babylon 5. Ça parle de Heroes.
What?
De Dallas. De Dallas.
Ça parle de Game of Thrones.
Ça,
ça parle de Game of... Ça parle de Game of Thrones, voilà, avec un peu d'actualité. Donc, ça va. Par contre, les photos sont dégueulasses. Sur les Sopranos, c'est dégueulasse. Ça parle de True Detective, genre, après... il parle de la première saison.
Des,
ils sortent des archives et donc ça coûte 15 balles quoi. J'ai trouvé ça honteux.
Ah, grave.
Et donc l'autre, qu'est-ce que c'était?
Alors par contre, attends, parce que par contre, alors ceux qui j'ai regardé qui a écrit chaque article, en fait, il y a pas les noms et je pense que c'est des traductions d'articles anglais parce qu'il y en a un sur X-Files, j'ai trouvé bien foutu et en fait, ils mettent le nom, ils disent ah, il y a machin qui a fait l'entretien et c'est un mec du magazine SFX. Donc je pense
ah bah,
qu'ils achètent du contenu et qu'ils le traduisent. Donc voilà, je pense que c'est...
Jean-Michel, pas de budget, mais je veux quand même de la thune.
Je dis pas que c'est un torchon, parce que bon, voilà, c'est quand même bien écrit, mais on sait pas par qui. Et surtout que ça... Enfin, ces articles d'archives qui ont aucun intérêt.
Oui, qui ont aucun intérêt, oui.
Bon, après, ça parle de tout. Il y a Crazy Ex-Girlfriends, Orange is the New Black, Mad Men et tout, quoi. Il y a quand même pas mal...
Il y a de l'actuel et du vieux, quoi.
Ouais, et il y a 115 pages...
Ah, pour 15 euros, ça va alors. Hein. Ouais.
Ouais, mais c'est aspect magazine, quoi, tu vois. Et donc, alors après, donc, j'ai acheté aussi celui d'à côté qui s'appelait Les meilleures séries de tous les temps, avec plein de séries écrites. Il n'y a aucun visuel, c'est que des noms. Donc, X-Files, Twin Peaks, Quatrième Dimension, Buffy. Et je les mets côte à côte et je vois qu'ils font la même taille. Et je vois qu'il y a le petit carré jaune pareil sur le côté gauche. J'ouvre la page donc, de ce deuxième magazine et je vois exactement les mêmes équipes.
Ah, c'est le même ours, putain.
Et j'ouvre la deuxième page du sommaire et c'est exactement le même sommaire, les mêmes images et c'est exactement le même magazine.
Mais non.
Pour 5 euros de moins.
Mais non.
C'est sérieux.
C'est un hors-série du magazine.
C'est le même top.
Alors,
il n'y a pas de différence.
C'est un magazine qui s'appelle Cinéstory qui a sorti donc le numéro 10 sur les séries, 9,90 €. Alors, c'est le même sommaire, sauf ils ont enlevé les séries un peu élitistes. Donc, ils ont rajouté Crazy Ex-Girlfriend, ils ont rajouté This Is Us, Ils ont enlevé Black Mirror, ils ont enlevé Les Sopranos, mais c'est exactement le même top et la même sélection d'articles. Donc je trouve ça, voilà, ça la presse série, c'est ça, c'est genre on va.
Tu m'étonnes que les gens ne veulent plus en acheter, quoi.
Ah, non mais qui achète ça,
voilà, on pioche à droite, à gauche, les journalistes sont pas des journalistes. Enfin c'est voilà. C'est...
Mais alors est-ce que c'est un qui a plagié l'autre ou est-ce que c'est la même le même éditeur qui s'est qui
c'est
s'est
la
pas
même
emmerdé
boîte, c'est Oracom qui fait ça. C'est exactement les mêmes équipes, les mêmes intervenants, les mêmes textes.
Ouais, donc ils ne sont pas fait chier, mais ils ont fait deux trucs en faisant croire que c'était différent, c'est, et c'est tout à fait la même chose.
C'est pas le même papier, c'est peut-être pour ça que l'autre coûte 15 balles.
Ouais.
Enfin, c'est honteux, quoi. C'est,
ouais, c'est du vol.
Imagine, tu regardes pas, tu vois ces deux séries, tu veux comparer, bah, comme j'ai fait, bah, tu te retrouves avec, avec le même contenu.
Oh, putain. Oh mon Dieu.
C'est honteux, messieurs.
C'est vrai
si
qu'en magazine série, j'avais pas grand choix, quoi. J'ai série TV, mais vu que c'est trimestriel, bah, au bout de deux mois, t'as plus d'exemplaires, donc tu trouves rien.
Oh putain, oui, c'est pas du tout, ça suit pas l'actualité.
Il n'y a pas aussi les Inrocks qui font des trucs de temps en temps sur juste des hors-série série ou.
Même Le Monde a fait ça, Le Point.
Oui, non, voilà, il me semblait aussi, ouais.
Bah, c'est ça le problème de ces hors-série, c'est que ça coûte quand même très très cher.
Ouais.
Pour des choses. Voilà, pour nous, sériephiles, est-ce que ça apporte quelque chose? T'en achètes peut-être un tous les
ans. Ah ben c'est toujours la même question. Hein. Est-ce que ça nous apporte vraiment quelque chose? Que c'est comme ce numéro du 1, au final, à nous, sériephiles, ça n'apportait pas grand-chose.
Mais j'avais acheté un hors-série de première qui, c'était genre 50 séries que vous n'avez pas vues. Il y avait une bonne sélection, surtout qu'ils mettaient si c'était disponible en VOD ou en DVD. Il y avait une bonne sélection, donc ça, c'était pas mal. Bon, après, t'avais pas beaucoup de place pour parler vraiment de toutes les séries. Mais il y avait des trucs... Voilà, c'était un tout petit paragraphe, ils n'en parlaient pas suffisamment, ça donnait pas trop envie, mais tu avais une sélection de séries qui changeait vraiment de tout le reste. Donc voilà, il y a vraiment à boire et à manger dans les magazines de séries, mais enfin, il y a plus à jeter qu'à autre chose. Quoi, mais
Donc on a de l'espace pour créer quelque chose, c'est ça? C'est ça que tu es en train de nous dire?
Le problème, c'est quel serait le magazine idéal, quoi? Tu peux pas faire
un magazine avec un contenu augmenté, clairement. Si tu veux des news, tu fais un contenu augmenté.
On dit ça, mais le magazine Doctor Who Magazine, qui sort à peu près en même temps, ils ont changé d'équipe, donc je ne vais pas m'avancer sur quand est-ce qu'ils le sortent. Ils arrivent à faire plus ou moins de sacrées ventes. D'ailleurs, j'ai demandé à un copain qui vient d'Angleterre de me rapporter le nouveau le numéro quand ils ont fait sur Jodie Whittaker. Et c'est plutôt intéressant parce qu'ils arrivent à avoir des interviews exclusives spécifiques avec tous les membres de l'équipe. Oui, mais d'accord, mais c'est quand même un magazine spécifique à une série et c'est un truc qui se vend plutôt pas mal.
Ouais. En fait, déjà parce que le fandom de Doctor Who est, remonte jusqu'aux gens qui regardaient la série dans les années 60, et en plus c'est de la science-fiction, donc les fandoms sont encore plus, enfin les gens sont encore plus engagés. Et justement, c'est spécifique. Tu regardes Mad Movies, le magazine, donc qui ne parle que de cinéma de genre, c'est pour ça qu'il fonctionne toujours, hein,
c'est pas
aussi bien.
Qui a de plus en plus de mal aussi. Hein. Ils font plein de crowdfunding comme l'écran fantastique pour essayer de survivre. Ils changent les formats et tout, mais il y a les magazines comme Entertainment Weekly qui font des très bonnes choses parce que, bon, eux, évidemment, c'est...
J'allais dire, ou TV Guide, ou des choses comme ça, qui font des... Mais bon, après, ils sont... Enfin, c'est les États-Unis, donc ils sont quand même...
Ils ont l'habitude.
Non, monsieur, voilà, c'est mal un magazine français faire venir tout un cast américain pour faire des photos inédites. Enfin, tu vois,
mais
c'est pas.
Fais-le avec des séries françaises, quoi.
Ouais, mais ça. Mais
ça se retrouve quand même sur le contenu sur Internet, quoi. Ils font des articles, mais ça se retrouve sur Internet quand même.
Mais pas tous, hein. Parce que pour le coup, je suis abonnée à EW, enfin Entertainment Weekly, et tout leur contenu n'est pas sur leur site internet. Et après,
pareil pour le New Yorker qui a publié récemment une super interview de Pamela Adlon là, pour la saison 3 de Better Things, que je vous avais envoyé, que vous m'avez dit, mais c'est bizarre, le numéro il n'est pas sorti. Mais non, parce qu'en en amont de la sortie du magazine, ils mettent quelques interviews, quelques articles pour aussi donner envie aux gens d'aller acheter le magazine une fois que le magazine sort. Parce qu'il y aura aussi du contenu qui ne sera pas au final sur internet.
Et typiquement. Non, j'allais dire typiquement de New Yorker, la qualité de tous leurs articles.
Ah, mais c'est le New Yorker aussi.
C'est incroyable, quoi.
Ouais, je suis d'accord.
Et surtout, quand ils font, par exemple, le début de saison, Entertainment Weekly qui fait spécial les débuts de saison, tous les scoops, vu qu'ils sont à l'heure américaine, ils peuvent se permettre. En France, on aurait du mal, on peut pas.
On peut pas.
Chacun a sa propre heure, en fait.
Oui.
spéciaux Rainian aussi de DW, c'est génial quoi. Enfin.
Oui, alors ça oui. À rigueur, tu pourrais faire une sorte de bilan de l'année, un magazine, un bilan de l'année série. Ça, tu pourrais, même en livre, tu pourrais faire un bilan et ça ferait une belle encyclopédie année par année.
C'est vrai.
Il y a l'année du cinéma qui faisait ça, je ne sais plus si ça continue.
Oui, mais alors, il n'y a plus d'année non plus, parce que t'as des séries l'été, t'as des séries avec Netflix toutes les semaines, les plateformes, parce que je ne vais pas te dire qu'on est...
L'année calendaire, quoi.
Tu te donnes une période. Moi, c'est vrai, quand je fais mon bilan série, je le fais au mois de juin, parce que pour moi, voilà, c'est septembre à juin. Pour moi, c'est la saison
oui,
série
mais pareil.
Pour beaucoup. En décembre, il y en a plein qui font le bilan des séries et tout, mais voilà, ça serait bien, ça serait voilà, un magazine, livre, un MOOC. Comme il y a Soap qui a essayé, ils se sont cassés la gueule aussi.
Ouais. Ouais. Et c'était bien Soap au final. Bon, tous les articles n'étaient pas.
C'était cher. Hein.
Voilà, mais c'était un peu cher et je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont coulé. Quoi.
Il y a aussi le magazine qui s'appelle Sick Magazine qui coûte, je crois, une dizaine d'euros. C'est tous les mois, c'est assez épais, il n'y a pas de pub. Ils ont fait un spécial X-Files et là, ils ont fait un spécial Futurama. C'est vraiment bien écrit, c'est très peu connu. Mais le travail, même graphique dedans, est superbe. Donc, voilà,
et tu le trouves, c'est quoi? C'est un magazine que tu trouves dans
ligne,
les...
En ligne.
Ah, c'est un
Mais alors, le fait que ce soit en ligne, ça ne me gêne pas du tout, ça. Et,
Non, mais c'est en ligne. Tu le commandes en ligne, mais tu le reçois en papier, tu vois.
D'accord.
Moi, j'allais dire le fait que ce soit numérique, par exemple. Donc, typiquement, IW et New Yorker, je ne vais pas le recevoir chez moi, quoi. Quitte à payer moins cher la version numérique, mais même avoir l'abonnement, c'est plus intéressant à mes yeux que d'avoir la version physique et payer 15 euros, je ne sais, tous les mois. Quoi.
Il y avait un magazine gratuit, là, c'était il y a 2-3 ans, qui sortait tous les mois sur les séries. J'avais participé, j'avais fait un article sur American Horror Story.
Ah oui.
Je ne sais plus comment ça s'appelait.
M, mort, non pas mort.
Ah si, Mort TV Mag.
Yes.
Mais ça, c'était sympa, voilà. Mais c'est vrai que je pense que la solution serait voilà, une sorte de MOOC, l'année télé, enfin l'année série 2019, et parler des tendances et tout. Je pense qu'il y a un truc à faire là-dessus.
Bon, bah, on se lance alors.
Et bah voilà. Et bon, voilà, on a été un peu long peut-être. Ça, c'est la faute de Marina, de toute façon.
Bah, toujours. Et un peu Stéphane aussi.
Ça va nous couper et on finira avec un podcast de 35 minutes. C'est pas grave.
C'est vrai. Mais voilà, on a fait un peu le tour et c'est vrai que on n'est pas d'accord, donc c'est un peu. On n'a pas réussi à vraiment trouver une solution, quoi, parce que parler des séries, chacun va à son rythme. Les magazines, c'est clairement dépassé. Ouais. Alors, sauf si on a du contenu exclusif, mais voilà. Et niveau livre, pareil, faut que ça soit figé dans le temps. Et avec les séries, vu que ça va très vite, c'est un peu difficile. Surtout qu'il faut parler des séries. Si on parle de Netflix, il faut en parler maintenant, parce qu'au bout de 2 semaines, c'est plus la peine. Il y a quelque chose à faire, je ne sais pas quoi. Peut-être que l'avenir, tout simplement, c'est le présent avec les podcasts.
Mais je pense que c'est l'une des solutions, oui.
C'est l'une des solutions, mais je pense qu'il y a aussi le côté collection. Non, mais le truc à collectionner, ouais. Tu parlais du livre.
C'est merchandising. Merchandising, c'est autre chose pour moi. C'est pas...
Non, mais c'est Marina, je crois, qui parlait des DVD qu'elle achetait encore. Moi, si il m'arrive encore d'acheter des Blu-ray, c'est très rare, mais quand je les achète, c'est pour les avoir, pour avoir quelque chose de physique.
Moi, j'achète encore des CD, des DVD, je te jure. J'ai,
nous aussi, mais parce que nous, encore une fois, c'est notre niveau de série.
Tu vois, ça n'a rien à voir avec l'actu, une chose dépassée. Tu vas acheter un DVD de Twin Peaks, bah voilà, qu'est-ce que ça fait? Bah rien, dans 2 semaines, ça ne sera pas désuet, tu l'as.
Oui.
C'est simplement parler série, c'est pourquoi, c'est la transmission de l'info et de la critique. Quoi.
Et pour la série, c'est plus de la transmission d'info, c'est de la transmission soit de critique, soit de passion.
Oui.
Transmission de passion, c'est avant tout ça, c'est ce qu'on fait avec les podcasts tous les jours, avec le blog smallthings.fr.
Elle perd pas le nord. Hein.
Voilà.
Non, entre parenthèses, Samsung va arrêter la production de ses lecteurs Blu-ray. Donc voilà.
Ah oui, bah là, c'est même niveau bonus, je pense qu'on en aura de moins en moins.
Ouais, c'est triste.
Voilà, c'est ça.
Ah mon grand dame.
C'est ça qui a lancé ma carrière de monteuse vidéo quand même. Hein. C'est les
parce que les bonus de séries Netflix, ce qu'il y en a très peu.
Ah mais
il y a les DVD qui sortent, hein. Donc il faut pas, y en a dedans.
Pas de Sense8 typiquement, alors que je cherchais une version collector de Sense8, il n'y en avait pas. Voilà.
Okay.
On pourrait en parler des heures, mais au bout d'un moment, il faut s'arrêter. Bon, Marina, on retrouve sur Malti et sur Twitter. Vous cherchez TV, je ne sais pas quoi, là. Je sais jamais. Alors Marina, tu le dis une bonne fois pour toutes.
TV show freak. Freak comme une folle.
Comme un monstre.
Ça veut rien dire. C'est chic. Ça veut rien dire. Stéphane.
Oui.
On te retrouve où?
Sur Twitter, c'est Résiteur. Voilà.
Voilà.
En plus simple.
À qui on te retrouve sur l'internet?
Tout à fait.
Vous tapez
sur Twitter aussi. Piper Aki _.
Et lisez ses articles qu'elle a fait sur Small Things et sur Mademoiselle aussi. C'est bien de lire des archives aussi.
Merci. Bah, alors, si je peux faire de la pub juste pour un article, ce serait sûrement pour Crazy Ex-Girlfriend. Voilà, merci.
On accepte. Iris, on te retrouve sur Small Things.
C'est ça.
Et sur Iris Dessine.
Ouais, tout à fait, parce que je dessine aussi. Ouais.
Et vous pouvez aussi prolonger le débat avec donc l'Happy Hour série, je ne sais plus lequel c'était, ça doit être le 3, je crois, sur comment parler série avec des journalistes et des blogueurs. Et voilà, on se retrouve donc très bientôt. Et à bientôt pour Serial Causeur, le magazine dans les kiosques. Pour la modique somme de 23€, vous aurez 10 pages d'exclus.
C'est ça.
À bientôt.
À bientôt.
Eh ben dis donc. T'as dit quoi à qui?
J'ai juste dit bonne soirée.
Ah bon.